Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau message dans cette série de messages qui portent sur les temps de la fin, tels que la Bible en parle, c'est-à-dire les temps qui sont à venir, que nous ne vivons pas encore et que la Bible décrit. Et l'événement dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église qui est finalement l'événement majeur de cette fin des temps, de ces temps de la fin. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est justement le titre que j'ai donné à ce message, En quoi l'enlèvement de l'Église est l'événement majeur de la fin des temps. Et pour pouvoir répondre à cette question, j'y répondrai plutôt en conclusion. Il s'agit déjà de voir qu'est-ce que l'enlèvement, selon ce que la Bible dit, et deuxièmement, comment le situer, où est-ce qu'il peut se situer dans le temps parmi les événements. Parmi les périodes de temps qui sont à venir, selon ce que la Bible dit. Et déjà, de répondre à ces deux choses, c'est ce qui va nous permettre de comprendre en quoi l'enlèvement de l'Église est l'événement majeur de cette fin des temps. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, c'est ce moment, ou cet événement plutôt, où les croyants en Christ, ceux qui sont fidèles en Christ, seront enlevés de terre et monteront dans le ciel à la rencontre de Jésus qui lui sera en train de descendre. Et à ce moment, quand ils se réuniront avec Jésus, ils ressusciteront. Leur corps changera pour avoir le même corps que celui de Jésus-Christ. Et ils redescendront avec Jésus sur cette terre. Et cet événement aura lieu dans un moment dans les temps de la fin. Il y a plusieurs passages qui nous parle de cet événement, de l'enlèvement. C'est surtout Paul qui en parle avec le plus de détails et nous allons revenir ensemble sur ces différents passages, les lire ensemble. Paul en parle déjà dans sa première épître aux Thessaloniciens où il dit: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et donc, dans ce passage, Paul précise que l'enlèvement se fera dans un certain ordre. D'abord ceux qui sont morts, les croyants en Christ, qui sont déjà morts et qui ressusciteront les premiers, et ensuite ceux qui seront vivants à ce moment-là, monteront à leur tour pour, et tous ensemble, ils ressusciteront. Mais voilà, il y aura cet ordre entre les morts et les vivants. Paul en parle aussi dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, où il dit, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ici, Paul vient rassurer les Thessaloniciens à qui des personnes venaient dire que le jour du Seigneur était déjà là. Sauf qu'il leur, ce qu'il leur rappelle, c'est que pour que le jour du Seigneur soit là, il faut déjà que celui qu'on appelle l'Antichrist se soit dévoilé. Et par la suite, il va un peu plus expliquer comment cela doit se passer. Il y a aussi, comme dernier passage, encore un passage dans les lettres de Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, où Paul dit, Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc cet événement, en même temps, se fera à une grande vitesse, en un clin d'œil, dit Paul, nous serons changés, c'est-à-dire que nous ressusciterons. Il y a enfin Jésus, bien sûr, qui en parle dans son discours sur la fin des temps, dans Matthieu 24, où, après avoir parlé du moment où l'Antéchrist va se dévoiler, le moment où il va y avoir ce qu'on appelle la grande tribulation, il parle aussi de l'enlèvement, et là il dit: Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, ça se passera à un moment où chacun est dans son activité et entre dans la vie normale, dans la vie quotidienne. Et là, en un clin d'œil, comme dit Paul, ça se fera. Et enfin, Jean 14, 3. Où Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il est en train de parler à ses disciples juste avant de monter vers le Père, ou plutôt avant de mourir en croix pour après ressusciter et monter vers le Père. Il dit donc, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand il dit et je vous prendrai, c'est le même verbe en grec que dans le passage précédent, l'un sera pris, l'une sera prise. Donc nous savons au travers de cela que ça nous parle de l'enlèvement. Donc voilà ce qu'est l'enlèvement de l'Église au travers de ces différents passages. Il n'y a pas forcément besoin de développer plus que cela. Ce sont des passages assez clairs. Et maintenant, deuxièmement, quand est-ce que l'enlèvement aura-t-il lieu? Alors, on ne peut pas connaître le moment exact de l'enlèvement puisque Paul dit que le jour du Seigneur, le jour où Jésus doit revenir, sera comme un voleur. Et Jésus dit lui-même qu'il reviendra comme un voleur. C'est-à-dire, un voleur, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir voler la maison, sinon on ferait en sorte que de se protéger. Mais voilà, ça sera un événement vraiment surprenant. Ça arrivera par surprise. On ne s'y attendra pas. Et en même temps, Paul dit aux Thessaloniciens qu'au travers de ce qu'il leur a dit, ils seront en mesure de discerner le moment où ça arrivera. Et il y a des passages qui permettent pas de dire une date, pas de situer un moment exact, mais de situer l'enlèvement dans une fourchette de temps par rapport aux autres événements de la fin des temps qui sont décrits. Et je vais situer l'enlèvement en répondant à deux questions. La première question, c'est est-ce que l'enlèvement se passera avant ou pendant le règne des 7 ans de l'Antichrist? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'enlèvement aura lieu avant, pendant ou après ce qu'on appelle la grande tribulation? Et je reviendrai sur ce qu'est la grande tribulation. Mais d'abord, alors est-ce que l'enlèvement aura lieu avant ou pendant le règne des 7 ans de l'Antichrist? Jésus dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'Antichrist, établi dans le lieu saint, c'est-à-dire le troisième temple, le temple de Jérusalem en tout cas, et donc a priori ce sera le troisième temple de Jérusalem qui aura été reconstruit. Donc quand il dit cela, ça signifie que ceux qui seront enlevés, avant d'être enlevés, pourront voir l'Antichrist se dévoiler en s'asseyant dans ce troisième temple. Daniel, le prophète Daniel, ajoute aussi que l'Antéchrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans, ça parle de son règne de 7 ans dans les temps bibliques, pour une semaine, 7 jours égale 7 ans, et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire que dans ce temple, le service du temple aura repris, mais l'Antichrist ayant pu entrer dans le troisième temple, ayant pu s'asseoir dans le trône, dans le troisième temple, l'investir, il fera cesser ce service. Et ça se déroulera au moment de la deuxième partie de son règne qui durera 3 ans et demi. Donc, à quel moment exactement tout cela se déroulera? À quel moment il va s'asseoir dans le troisième temple? Est-ce que ce sera au cours des premiers 3 ans et demi de son règne où il y aura une paix apparente? Ou est-ce que ce sera vers la fin de ce moment? Ou est-ce que ce sera au tout début de la deuxième partie de son règne qui durera aussi 3 ans et demi? Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment savoir. Toujours est-il que l'enlèvement, pour qu'il ait lieu, il faut que l'Antichrist Il faut que ceux qui soient enlevés, qui sont destinés à être enlevés, aient vu l'Antéchrist s'asseoir dans le troisième temple. Donc, a priori, ça devrait se passer un moment dans ces 7 ans, un moment, pas avant en tout cas le règne de l'Antéchrist, mais au moment de son règne, avant qu'il se dévoile, au moment où il va se dévoiler complètement. La deuxième question, est-ce que l'enlèvement se passera avant, pendant ou après la grande tribulation? Est-ce que les fidèles en Christ vivront cette grande tribulation qui signifie une grande épreuve, une grande oppression, une grande pression, affliction? Ça sera vraiment quelque chose de difficile, de douloureux sur terre. J'y reviendrai. Est-ce qu'ils le vivront complètement ou en partie, ou est-ce qu'ils seront enlevés avant? C'est un des débats les plus houleux dans l'Église concernant la fin des temps. Mais déjà, il faut distinguer la grande tribulation des tribulations en général, parce que la Bible, Jésus nous dit et les apôtres nous disent que en tant que chrétiens, bah, nous vivrons des tribulations. Le mot tribulation en grec, c'est klipsis, ça signifie pression, oppression, affliction, angoisse, détresse. Et donc les auteurs de la Bible, Jésus lui-même nous dit que nous vivrons des tribulations. Déjà avant lui, les prophètes de l'Ancien Testament, les justes, les fidèles en Dieu, bah, vivaient des tribulations par rapport à leur foi, par rapport à leur fidèle à Dieu, alors leur fidélité à Dieu. Et de la même manière, les chrétiens, après Jésus, vivront, ont vécu des tribulations, vivent encore aujourd'hui des persécutions. Et dans les temps qui s'annoncent, il y aura des temps aussi difficiles où nous vivrons des temps de persécution pour notre foi, mais ça ne sera pas ce que l'on appelle la grande tribulation. Mais ces tribulations, elles font partie de notre croissance spirituelle. En fait, elles entrent en jeu. Nous avons besoin de ces épreuves pour grandir spirituellement. Ce n'est pas agréable, mais effectivement, c'est ce que plusieurs nous disent. Déjà, le verbe d'où vient tribulation, clipsis, c'est tlibo, qui signifie pressé comme des grappes, oppressé. Ça signifie aussi passer par un chemin rétréci, étroit, resserré. Et ça fait référence par exemple à ce que Jésus dit quand il dit: mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et donc, effectivement, c'est un chemin, la foi, qui passe par des épreuves, qui passe par des tribulations et qui nous fait croître spirituellement, puisque c'est la manière dont on va accueillir l'épreuve, dont au travers de l'épreuve, on va se tourner vers Dieu, avoir foi en lui, continuer quand même de lui faire confiance. C'est ce qui va développer notre foi et c'est ce qui va nous permettre de grandir spirituellement. Et d'ailleurs, ça rejoint cette parole de Paul et Barnabas, cette parole qu'ils adressent à des chrétiens d'Asie mineure. Dans le livre des Actes, quand ils viennent leur dire, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi d'autres passages qui vont dans ce sens, que les tribulations, nous avons à les vivre parce qu'aussi ça fait partie de notre chemin spirituel. Et vous pourrez retrouver ces références avec cette vidéo sur la chaîne. Donc maintenant, la grande tribulation. Une fois que nous avons parlé des tribulations, qu'est-ce que sera la grande tribulation? La grande tribulation, ce sera une tribulation, une pression, une oppression, un temps de détresse, d'angoisse d'une extrême importance, telle que l'histoire humaine n'en a jamais connue. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 24, c'est ce que dit le prophète Daniel. Donc ce sera dans un contexte de paix apparente que soudain cette grande tribulation viendra. Selon ce que Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, où il dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, c'est la grande tribulation, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc il y aura, voilà, ce temps de paix apparente, et là, la grande tribulation arrivera. Et donc il y a des passages qui montrent que il y a des croyants en Christ qui ne vivront pas la grande tribulation, mais qu'il y a des croyants en Christ qui la vivront. Mais qu'est-ce que déjà la grande tribulation? La grande tribulation, donc tribulation grecque, c'est klipsis. La grande tribulation, c'est klipsis mégalai. On la retrouve dans trois passages. en particulier donc dans Matthieu 24, mais aussi dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, dans deux passages, et en particulier dans Apocalypse 2, 22, où Jésus est en train de dire à l'Église, il s'adresse à une Église qui existe, mais il s'adresse aussi à toute l'Église en disant, voici, je vais la jeter sur un lit. Il parle de Jézabel, il parle de l'idolâtrie, il parle en fait de à l'Église qui est dans l'idolâtrie. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc ce passage dit que cette grande tribulation, elle est notamment destinée à qui? Elle est destinée à ceux qui, dans l'Église, sont dans l'idolâtrie. Elle est destinée à ceux qui, en particulier, alors qu'ils sont serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont responsables aussi, ont perdu leur rang parce que ils sont entrés dans l'idolâtrie. Et par extension, ça s'étend à tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire qui se sont éloignés de Dieu dans leur cœur consciemment et qui en fait n'ont de chrétien que le nom. Ou dans leur cœur, finalement, ils ne suivent pas l'enseignement de Dieu, ils ne sont pas dans la parole de Dieu, ils ne sont pas dans la parole de Jésus. Donc la grande tribulation est d'abord un jugement sur l'Église idolâtre, mais elle est aussi un jugement sur le monde en général qui est révolté contre Dieu. Ça va être le jour de la colère de Dieu, le jour où Dieu finalement va juger le mal, va juger le péché et va juger toute cette partie du monde qui est en révolte contre lui. Donc voilà tout ce qu'inclut la grande tribulation. Et de ce fait, bah, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ ne peuvent y être destinés et seront donc enlevés avant, puisque la grande tribulation est un jugement qui concerne ceux qui n'ont pas été fidèles à Christ et ceux qui n'ont jamais accepté Dieu, ceux qui rejettent Dieu et ceux qui sont ouvertement dans le mal. Donc c'est déjà un premier argument pour dire que l'enlèvement se situera avant la grande tribulation. La Bible donne encore d'autres arguments qui nous permettent de dire que l'enlèvement se situera avant la grande tribulation. Il y a déjà cette parole de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3, où Jésus dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. En fait, je te garderai aussi de l'heure, on pourrait traduire, je te garderai aussi hors de l'heure, c'est un petit mot grec, ek, qui veut dire hors de. Donc, ceux qui ont gardé la parole de la persévérance en Jésus seront gardés hors de la grande tribulation, la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a aussi Jésus qui dit en Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, c'est-à-dire la grande tribulation, qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce qui signifie donc que si Jésus dit qu'il y a la force d'en réchapper, bah c'est que nous pouvons l'éviter. C'est que ceux qui sont fidèles en Christ pourront l'éviter. Et donc c'est de nouveau un argument en faveur du fait que l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. Et quand Jésus dit et de paraître debout devant le Fils de l'homme, ça parle justement de ce moment où nous serons devant Jésus ressuscité. Et donc, on peut comprendre que c'est aussi ce moment où on le rencontre dans le ciel. Il y a aussi ce passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens où Paul dit à un moment, donc on a lu le début tout à l'heure, mais à un moment plus loin, il parle. Après avoir dit qu'il faut que l'Antichrist se dévoile en s'asseyant dans le troisième temple pour que l'enlèvement ait lieu, pour qu'il y ait le jour du Seigneur, pour que nous retrouvions dans le ciel, alors que Jésus est en train de descendre, il précise, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? En fait, c'est l'œuvre du péché qui aboutit à la mort et qui œuvre dans nos cœurs. Il y a un travail du péché dans nos cœurs et qui œuvre dans ce monde. Et c'est ce travail qui aboutit à la mort que Jésus est venu révéler. Il est venu révéler que ça nous conduit à la mort et que c'est pour ça qu'il est mort et ressuscité, pour que nous puissions être ramenés vers la vie au travers de lui. Et donc, ce mystère de l'iniquité, cette œuvre du péché, agit déjà, effectivement, on voit le mal autour de nous, mais dans certaines limites. Sauf que quand celui qui le retient aura disparu, alors celui qui le retient, le c'est l'Antichrist, là il se déchaînera, le mal se déchaînera au travers de lui. Et donc, qui est celui qui le retient jusqu'à présent? Celui qui le retient, qui est-ce qui est celui qui le retient aussi dans la première période de son règne? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été données. Certains ont compris que c'était le Saint-Esprit. Sauf que pendant la grande tribulation, il y aura aussi des personnes qui pourront toujours se tourner vers Dieu. Et donc, ça, c'est le travail du Saint-Esprit que de frapper à la porte du cœur de l'homme pour que l'homme se tourne vers Dieu, pour qu'il se tourne vers Jésus. Donc, le Saint-Esprit sera toujours là, il n'aura pas disparu. Donc, qui est-ce qui aura disparu? C'est l'Église qui aura disparu. Alors, le pronom celui, c'est un masculin, mais on sait qu'en grec, ce pronom-là, qui, certes, dans le texte étant masculin, il peut être aussi féminin, il peut être aussi neutre. Il y a trois genres en grec. Et ce pronom, en fait, quelle est sa fonction grammaticale? Il a pour fonction d'opposer deux entités dans un texte et aussi de renvoyer à un élément qui précède dans le texte. Donc, quelles sont les deux entités qu'il oppose? Bah, déjà, il y a l'Antichrist. À quelle autre entité il l'oppose? En fait, c'est à l'Église. Et à quel élément il renvoie dans le texte? Si nous allons lire plus haut, nous voyons que Paul, au début de ce passage, est en train de parler en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc, il est en train de parler de l'Église. Donc, celui qui retient l'Antichrist, c'est l'Église. Et une fois que l'Église aura été enlevée de terre, là, du coup, l'Antichrist se déchaînera. Et c'est ce qui marquera cette deuxième période de son règne. Et c'est ce qui sera marqué par la grande tribulation. Donc, de nouveau, c'est un argument en faveur de l'enlèvement avant la grande tribulation. Il y a aussi Paul qui répète à plusieurs reprises, trois reprises exactement, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. La colère de Dieu, bah, qui sera, dont la grande tribulation sera l'expression, comme je l'ai dit précédemment. Et ça, Paul nous le dit clairement. Un autre argument est le fait que Paul qualifie l'enlèvement d'espérance. C'est ce qu'il dit dans le passage qu'on a lu dans la première épître aux Thessaloniciens. Il qualifie l'enlèvement d'espérance, mais en quoi l'enlèvement serait une espérance si cela arrivait pendant la grande tribulation, si cela arrivait même après la grande tribulation? Donc c'est une espérance à partir du moment où ceux qui sont fidèles en Christ ne vivent pas la grande tribulation. Et si effectivement ce n'était pas le cas, bah quelle serait la différence également entre ceux qui sont fidèles en Christ et ceux qui sont infidèles? Il y a enfin un dernier argument, il y en a d'autres encore, mais je vais citer un dernier argument, c'est aussi le fait, certains détracteurs avancent que ça voudrait dire qu'il y ait deux retours de Jésus, si Jésus vient chercher l'Église et qu'en même temps il revient à la fin du règne de l'Antéchrist pour mettre un terme au mal. Mais non, en fait, il faut comprendre que l'enlèvement se déroule en deux phases. Une phase où l'Église monte, ceux qui sont fidèles en Christ montent vers Jésus. Et puis, on ne sait pas combien de temps ça dure, en tout cas le temps de réunion. Et puis le temps où Jésus redescend avec l'Église, la Bible ne dit pas combien de temps ça durera, mais on comprend dans des passages au travers de Zacharie qui disent que Jésus posera les pieds sur le mont des Oliviers, que voilà, c'est la deuxième phase de cet enlèvement. Donc de nouveau, c'est un argument qui ne contredit pas ce que nous voyons avant, que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. À côté de cela, d'autres versets en même temps indiquent que des croyants en Christ auront vécu la grande tribulation. C'est ce que dit un passage dans l'Apocalypse où à un moment, Jean, dans sa vision, un des vieillards, dans sa vision, s'adresse à lui en disant, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, c'est-à-dire Jean dit, Monseigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Puisqu'il y aura, là, ça dit clairement qu'il y a des croyants en Christ qui vivront la grande tribulation. Et bien que l'enlèvement se sera passé avant la grande tribulation, avec ceux qui auront été fidèles en Christ jusque-là. Mais de nouveau, pour ceux qui n'auront pas été fidèles, à Christ, qui se seront éloignés, qui auront été dans l'apostasie, qui auront perdu leur rang dans les responsables, qui auront été finalement dans l'idolâtrie, n'auront pas été fidèles à Christ, ils auront manqué l'enlèvement. Et donc là, parmi ceux-là, il y a des personnes qui finalement, au travers du fait qu'ils ont manqué l'enlèvement, se tourneront véritablement vers Jésus. Mais cette fois-ci, ce sera au prix de leur mort qu'ils resteront fidèles à Jésus, au prix de leur mort et voilà de persécution, de souffrance dans cette grande tribulation. Ça concerne aussi les personnes qui, jusqu'alors, auront été incroyants, auront rejeté Dieu et finalement, avec tout ce qu'ils auront entendu et vu, se tourneront vers Jésus. Et donc, ils feront partie aussi des croyants. Et de nouveau, ceux-ci paieront leur fidélité au prix de leur vie. Donc, après tout cela, pour conclure, en quoi l'enlèvement est l'événement majeur des temps de la fin et qu'est-ce que cela implique pour la foi? L'enlèvement de l'Église est l'événement majeur de la fin des temps pour trois raisons. Premièrement, parce qu'il sert, c'est un avertissement de dernière chance au monde quand le monde verra qu'une partie de la population aura disparu d'un seul coup. Ceux qui auront entendu le témoignage des chrétiens, ceux qui connaîtront la parole, ceux qui reviendront à la Bible, du coup comprendront ce qui s'est passé et du coup ce sera un témoignage pour eux. Donc voilà, c'est un avertissement de dernière chance au monde. Sans doute qu'en même temps, on en parlera d'une autre manière pour continuer d'éloigner des Écritures, puisque ça, c'est le but de Satan. L'enlèvement de l'Église sera aussi un événement majeur parce qu'il servira deuxièmement à réveiller ceux qui se seront éloignés de Dieu, ceux qui seront devenus finalement infidèles, ceux qui n'auront pas tenu leur rang en tant que serviteurs de Dieu parce qu'ils seront entrés dans l'idolâtrie, parce que délibérément, consciemment, ils se seront éloignés de Jésus, de son enseignement. Et troisièmement, il sera majeur parce que comme Israël n'a pas reçu Jésus comme son Messie, il servira aussi à interpeller Israël et pourra faire que des Juifs se tournent, acceptent, reçoivent Jésus comme leur Messie. Donc l'enlèvement de l'Église sera un événement majeur de la fin des temps, destiné à ce que ceux qui sont fidèles en Christ puissent le rejoindre et échapper à la grande tribulation qui, elle, sera un jugement qui concernera toutes les personnes qui se sont éloignées de Dieu et tous ceux qui ne l'ont jamais reçu, afin que les uns et les autres puissent, à ce dernier moment-là, dans le règne de l'Antéchrist, avant que Jésus revienne, enfin se tourner vers Dieu. Et finalement, qu'est-ce que cet enseignement sur l'enlèvement, à partir du moment où il est compris comme devant avoir lieu avant la grande tribulation, qu'est-ce qu'il implique pour notre foi? Eh bien, il implique de se préparer. Il implique de cultiver notre fidélité à Jésus pour justement être enlevé vers lui au moment où ça devrait arriver. Il implique à ne pas se laisser endormir et en particulier quant à ce moment du premier temps, de la première période du règne de l'Antéchrist arrivera et qu'il y aura un moment de paix apparente, de ne pas se laisser séduire par ce moment de paix. La Bible dit aussi que ce sera un moment où il y aura plein de faux prophètes, de faux messies. Donc il s'agira de ne pas se laisser séduire, mais de rester accroché à qui Jésus est, selon ce que les Écritures bibliques disent. Et il s'agira aussi d'être particulièrement attentif, de veiller au moment où l'Antéchrist se dévoilera en venant s'asseoir dans le temple, le troisième temple de Jérusalem qui aura été reconstruit. Donc cet enseignement, il nous aide à rester attentifs. Jésus nous dit veillez et priez. Au fond, plus qu'à cet événement qui est certes majeur, c'est à la personne de Jésus qu'il s'agit de s'attendre. Car c'est lui qui est le centre de tout cela. Et c'est le fait de s'attendre à Jésus qui fait que déjà on pourra rester fidèle, qui fait que l'on pourra traverser ces temps de difficultés qui s'annoncent, rester fidèle malgré ces temps de difficultés, et du coup être enlevé. Et pour ceux qui ne seront pas enlevés, c'est le fait de s'attendre à Jésus, à son retour, qui fait qu'ils pourront tenir dans ces temps-là. Donc, de toute façon, il s'agit de s'attendre à la personne de Jésus et d'ores et déjà de veiller et prier selon ce qu'il nous dit. Bien sûr, c'est l'avenir qui nous dira comment les choses se dérouleront véritablement. Et donc, il s'agit aussi de rester attentif à ce que dit la parole, d'approfondir les textes, de toujours étudier la parole au fur et à mesure que les événements se déroulent. Mais ce qui compte le plus, c'est de rester accroché à Jésus. Alors, dans quelle mesure tu es accroché à Jésus? Dans quelle mesure tu fais en sorte d'être fidèle? Dans quelle mesure tu l'as accueilli dans ta vie? Je vais terminer maintenant ce message par la prière. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous révèles par ta parole. Je te remercie parce que ta parole est la vérité. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse être vraiment touché par ce que tu lui dis aujourd'hui. Comment est-ce que chacun se prépare? Comment est-ce que je me prépare? Comment je fais en sorte de te rester fidèle? C'est quoi te rester fidèle? Seigneur, je te remercie de nous conduire aussi par ta parole, par des enseignements, par des révélations, ce que signifie concrètement aujourd'hui te rester fidèle, pour que en ce jour où tu viendras nous chercher, nous puissions être prêts. Vraiment, Seigneur, je te remets chacun, je te remets le cœur de chacun, et que chacun puisse vraiment déposer, ouvrir son cœur devant toi, se positionner devant toi, voir où il en est avec toi. Et pour celui qui ne t'a pas accueilli dans sa vie, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses recevoir Jésus-Christ, que tu fasses de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Que vraiment tu puisses lui dire, mais voilà, je t'accueille dans ma vie, je fais la paix avec Dieu parce que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Je demande pardon pour mes péchés et je reçois le pardon de Dieu. Oui, merci Seigneur de conduire chacun là où il en est. Merci Seigneur d'être là pour chacun parce que tu es venu pour chacun de nous. Et tu reviendras nous chercher. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis.